Masque noir, peau blanche, de Marianne Desrosiers, lu par Martine Bressan. Il était là depuis longtemps. Pourtant, c'était comme si je ne l'avais jamais vu. Il faut dire que ce n'était pas vraiment chez moi. Cette maison, je l'habitais, certes, mais elle ne m'appartenait pas et je ne m'y sentais pas à mon aise. Je venais de me marier et j'avais suivi mon mari ici, dans la maison de son enfance. Ses parents étaient morts quelques années plus tôt dans un accident de voiture. Ça s'était passé sur l'autoroute du Soleil, en plein été, alors qu'il descendait dans le sud chez des amis. Les circonstances de l'accident n'avaient jamais été élucidées. Il était là depuis longtemps. Pourtant, c'était comme si je ne l'avais jamais vu. Remarquez que je n'allais presque jamais dans la pièce que mon mari appelait le petit bureau. C'était un peu comme le cabinet de Barbe Bleue, sauf qu'il n'y avait pas de clé et que mon mari ne m'avait jamais interdit d'y aller. Je n'étais d'ailleurs pas le genre de femme à qui on interdit des choses. Je lisais dans l'assombrissement soudain des yeux de mon époux qu'il y avait des limites à respecter. Soumise et docile, comme une femme d'un autre temps. Certains me trouvaient éteinte et plaignaient mon mari d'être avec une femme si peu vivante, effacée jusqu'à l'évanescence. Il était là depuis longtemps, ce masque. Au milieu du fatras rapporté d'Afrique par feu mon beau-père, ethnologue réputé, ayant collaboré avec Marcel Griol, ami d'André Breton et de Michel Léris, il avait rapporté ce masque hideux de la célèbre mission Dakar-Djibouti en 1931. Cet indescriptible objet était l'incarnation du mal sous toutes ses facettes. La première fois que je le remarquais, c'est lorsqu'il me tomba dessus. La femme de ménage était en congé et mon gentil mari m'avait fait comprendre que la maison entière, une vaste demeure bourgeoise de près de 1000 mètres carrés, mériterait bien un coup de balai et de chiffon. D'un naturel maladroit, j'essayais d'épargner la pile d'anciennes revues universitaires qui s'amoncelaient sur un bureau, contre le mur, quand je ne sais comment, le masque me tomba dessus. Je dis cela maintenant, mais sur le coup, j'ai pensé que c'était moi qui l'avais fait tomber par un geste brusque ou en faisant vibrer le bureau qui lui-même avait produit un choc contre le mur susceptible de faire tomber le masque. Plus j'y pense et plus je me dis que ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. C'est lui qui m'est tombé dessus, volontairement. Il était là depuis longtemps. Pourtant, c'était comme si je ne l'avais jamais vu. L'art ne m'intéresse pas vraiment. L'art africain encore moins. Je suis ce qu'on appelle une femme simple, une femme d'intérieur, une femme tarte aux pommes, une femme charentaise. C'est un peu dur de dire ça à propos de soi, mais je suis comme ça. La lucidité est mon pire défaut, surtout quand je l'applique à moi-même. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas pu me leurrer sur la nature réelle du masque. Dès que je le touchais pour le ramasser et le remettre à sa place, sur le mur, à la vieille tapisserie à grosses fleurs mauves empestant le salpêtre, je ressentis une vive douleur au dos, comme une brûlure entre les omoplates. Le soir même, je me coupai avec un couteau en voulant éplucher une carotte pour le dîner. Je ne m'étais jamais autant entaillée. La blessure était profonde. Le sang giclait de ma main comme dans un film d'horreur. Prise de panique, je n'étais plus bonne à rien. Je dus courir chez la voisine pour qu'elle m'aide et me fasse un bandage après avoir désinfecté la plaie. Elle ne saisit pas tout à mon histoire de masque, mais fit semblant de comprendre et me rassura, du moins pour quelques heures. Mon mari rentra d'une humeur exécrable, comme souvent depuis que nous étions mariés, si bien que j'imaginais qu'il me trompait, cette pensée m'obsédant et me rendant encore plus triste. Il ne dit presque pas un mot pendant le dîner, puis partit s'enfermer dans le petit bureau. En passant devant la porte, je crus l'entendre parler. Je me demandais s'il parlait au téléphone avec quelqu'un, ou s'il parlait seul. La curiosité me poussait à rester là, tremblante, souffle coupé, le cœur battant fort dans ma poitrine, à tendre l'oreille derrière la porte, à me baisser pour voir par le trou de la serrure. J'aurais pu le faire. Je l'avais déjà fait plus d'une fois, ne trouvant jamais rien à lui reprocher, mais je décidai d'aller me coucher. Une fois en pyjama, je fus prise de nausées. J'allais dans la salle de bain et avalais un anti-vomitif. Je possédais un stock de médicaments qui n'avait rien à envier à une pharmacie de village, chaque petit souci physiologique ayant sa solution sous forme de comprimés, de gélules, d'ampoules ou de crème. Au milieu de la nuit, je fus réveillée par des maux de ventre terribles. Mon mari occupait les trois quarts du lit, me laissant peu de place. Il est vrai que je l'avais habitué à en prendre si peu. Il semblait faire un rêve érotique. Gêné, je quittai la chambre plus vite. Je ne sais pourquoi, j'allais trouver refuge dans le petit bureau. Je crus rêver en voyant que le masque avait changé d'expression. Alors que ses traits étaient grossièrement déformés par la colère la veille encore, le masque désormais riait. Non pas d'un rire joyeux ou plaisant, mais d'un rire démoniaque. Il riait de moi, il riait contre moi, il riait de ce qu'il était en train de me faire. Je me réveillais, fébrile, par terre, sur le plancher du bureau. Une voix venue d'outre-tombe murmurait à mon oreille « Je t'aurai, tu ne m'échapperas pas ». Le masque, c'était lui, j'en étais certaine. Il était là, imperturbable sur son mur, sur cette vieille tapisserie ridicule. Il me narguait tout en faisant semblant de n'y être pour rien. Je sortis de la pièce, traversai le couloir, montai les escaliers 4 à 4. Mon mari n'était plus là. Il était parti au travail sans même se demander pourquoi je n'étais pas dans le lit. Il ne m'avait même pas cherché dans la maison. Le salaud! Quand il rentra le soir, j'étais partie, emportant toutes mes affaires. Le masque sur le mur avait repris son air normal. Mon mari ne se douta jamais de rien. Peut-être n'en avait-il rien à faire. Peut-être aurait-il chéri ce masque s'il avait su que c'était de sa faute si j'étais partie.